Et c'est vrai ou faux que l'Iran aussi alimente cette matrice terroriste, selon
C'est-à-dire
vous?
Que l'Iran a utilisé le terrorisme dans les premières années de la République islamique sous forme d'attentats très violents, de prise d'otages, hein, au Liban ou ailleurs. Et ils ont utilisé, ils cherchent même à intervenir encore ces dernières années en Europe pour neutraliser leurs ennemis. Ils ont envoyé des agents pour supprimer physiquement, il y a eu Shapour Bhatia, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et c'était, disons, les méthodes violentes pour s'affirmer comme étant des gens qui ne reculent devant rien. L'Iran aujourd'hui est craint par les Israéliens parce que peut-être que l'Iran a un peu la même froideur et le même cynisme que les Israéliens quand ils ont décidé de faire une opération. Peut-être qu'ils sont capables d'aller très loin.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact dans notre collimateur aujourd'hui, l'Iran, qui retient beaucoup l'attention depuis quelques mois, sinon depuis quelques années, mais spécialement depuis le début des opérations militaires à Gaza avec des tensions vives entre Israël et l'Iran. Pour en parler avec nous, Yann Richard, grand spécialiste de l'Iran, qui était, je vous en prie, s'il vous plaît, Monsieur Richard, qui était d'ailleurs à Téhéran en 1979, si je ne me trompe pas, au moment où le Shah fut chassé d'Iran. Un moment de bascule, un point de bascule beaucoup plus significatif, je pense, qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Je vous disais à micro fermé tout à l'heure, il y a des tectoniques qui se sont déplacées en 1979 et qui ont peut-être plus durablement changé le monde que même la chute du mur de Berlin semble l'avoir fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Oui, je suis un peu d'accord. J'ajouterais quelque chose, c'est que j'étais à Téhéran et comme tous les gens qui ont le nez sur l'événement, je n'ai rien vu à l'époque. D'abord, j'étais trop jeune. J'avais pas beaucoup lu sur l'histoire de l'Iran ni sur la société iranienne. Je m'intéressais plus à la littérature et la philosophie. Et puis, les événements les plus importants me sont passés devant le nez. J'ai repris récemment, et je vais essayer de le publier, le journal que j'ai tenu pendant quasiment toute la révolution, avec des trous, mais c'est un journal qui est très révélateur. Le jour de la prise d'otage, le 4 novembre 1979, quand l'ambassade américaine a été prise d'assaut par des étudiants désarmés, non armés. Ce jour-là, moi, je m'intéressais beaucoup plus à l'écriture de la Constitution par l'Assemblée des experts qui écrivaient la Constitution de la République islamique que à ce qui se passait autour de l'ambassade américaine que je n'ai pas vu et je n'ai pas signalé dans mon journal.
Et qui allait profondément modifier l'équilibre des forces
Tout
dans
à
la
fait,
région
c'est...
et l'histoire jusqu'à aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr. L'Iran est devenu un pays de résistance anti-américaine, un peu comme Cuba, disons, mais dans cette région du monde, il n'y avait pas eu de claquement de porte aussi violent que ce qui s'est passé en 79 à Téhéran.
Avec des moyens très différents de ceux de Cuba, c'est-à-dire que l'Iran, c'est une puissance régionale importante.
Des moyens différents et en plus aussi idéologiquement, Cuba se fait avec le soutien soviétique alors que la révolution iranienne était un peu comme les Américains sur la défensive par rapport à une éventuelle invasion de troupes soviétiques. N'oublions pas que peu après la prise d'otage à Téhéran, les forces soviétiques ont débarqué à Kaboul hein, le 24 décembre 1979. Donc, la hantise de tout le monde, c'était que les Russes profitent du départ du Shah, de la désorganisation de l'armée, pour s'emparer de l'Iran. Ils avaient déjà essayé de grignoter en 1946, mais là, ils auraient pu se servir de l'Iran pour aller jusqu'aux rives du Golfe Persique et perturber l'acheminement des hydrocarbures vers les pays industrialisés. Ça aurait été, disons, stratégiquement quelque chose de beaucoup plus intéressant pour eux que la prise de Kaboul, qui était une stupidité.
Alors, comment expliquer ce mauvais calcul? Est-ce que ça s'explique d'ailleurs?
Je Bon, personne n'a anticipé ce qui s'est passé. C'est ça, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer. C'est-à-dire que les Soviétiques, ils envisageaient de faire quelque chose dans la région, et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait improvisé ce qui s'est passé à Kaboul, mais pour eux, l'Iran était une forteresse imprenable. Il y avait des radars un peu partout, surtout sur le nord de l'Iran, et les Américains étaient prêts à réagir aussi, mais l'armée du Shah était très puissante. Il y avait peut-être 250 000 hommes en armes, et que ce soit l'aviation iranienne qui était très puissante, toutes les armes étaient là, en fait.
Et le Shah avait été, pendant 25 ans, sinon davantage, le gendarme de la région pour les Américains.
C'est ce qui était très important pour les Américains, de fait, parce que c'est le Shah qui avait imposé cette doctrine à Nixon. Elle était plus ou moins déjà appliquée avant Nixon, mais Nixon l'a plus systématisée. Les Américains ne peuvent pas être directement présents et prêts à réagir à la moindre incursion soviétique. Donc, il faut qu'ils fassent confiance à leurs alliés dans les régions du monde où il y a des intérêts vitaux. Et le Shah disait, au Moyen-Orient, ce n'est pas l'Égypte qui était plus ou moins dans l'orbite soviétique, ce n'est pas l'Arabie saoudite qui n'a pas de population réelle prête à réagir, qui a des armées de mercenaires, etc. C'est l'Iran, il n'y a que l'Iran. Donc il faut armer l'Iran.
Capable de tenir tête à ce qui était à l'époque l'Union soviétique.
Le danger soviétique, voilà.
Le danger soviétique. Oui. Les dangers ont beaucoup changé depuis cette époque, quoique les Russes sont encore un peu perçus comme dangereux pour l'Occident. Vous disiez n'avoir rien inscrit dans votre journal personnel le 4 novembre 1979. Vous vous êtes bien rattrapé avec ce livre, « Le grand Satan, le chat et l'imam », qui raconte un peu justement ces relations difficiles entre les États-Unis et l'Iran sur les derniers, je dirais, jours ou au dernier jour du Shah. Revenons à l'actualité plus pressante. Vous parliez de l'armée du Shah d'Iran à l'époque, puissante, redoutable, qui faisait peur même aux Soviétiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran est encore une puissance militaire conséquente?
Pas du tout la même qu'en 79, bien sûr, pour plusieurs raisons. D'abord, l'armée iranienne a été en partie décapitée par la révolution. Elle est parmi les premières victimes des pelotons d'exécution. Il y avait des grands généraux de l'armée du Shah, ceux qui n'ont pas pu s'enfuir d'Iran avant la prise de pouvoir des islamistes. Et cette armée, finalement, a défendu le territoire national quand les Irakiens ont attaqué en septembre 1980 une guerre qui a duré 8 ans. Très coûteuse. Alors, souvent, on entend des chiffres incroyables et déraisonnables sur le nombre des victimes. Je pense que 500 000 victimes, c'est déjà beaucoup, mais pour une guerre qui a duré 8 ans, et si vous comparez avec le nombre de victimes françaises pendant la Première Guerre mondiale, qui n'a duré, si j'ose dire, que 4 ans, vous voyez que 500 000 hommes, c'est pas énorme. L'Iran pouvait supporter ce choc démographique et aujourd'hui, ce n'est presque plus sensible. Par contre, beaucoup d'avions iraniens qui manquaient de pièces détachées n'existent plus et la flotte n'a pas été renouvelée. C'est-à-dire que les Américains ne vendaient plus d'avions aux Iraniens et donc l'Iran aujourd'hui a pratiquement repart à zéro concernant ses forces aériennes. Ceci dit, pendant 8 ans, vous avez des gens, non seulement qui combattaient dans l'armée régulière, soit des conscrits, soit des militaires de carrière, mais vous avez des militants, des miliciens, les gardiens de la Révolution, qui avaient une base populaire très solide qui ont fait leurs armes, c'est-à-dire qu'ils ont appris ce que c'était que la guerre, la vraie guerre, Ils ont donné beaucoup de victimes, beaucoup de blessés. Et logiquement, c'est eux qui ont un droit sur la nation iranienne aujourd'hui, parce que c'est eux qui se sont sacrifiés. Ce ne sont pas les bourgeois iraniens qui trouvaient tous les moyens pour partir à l'étranger et échapper, évidemment, à la conscription ou à l'effort de guerre. Je veux pas dire du mal des gens qui ont cherché à sauver leur vie, mais il faut reconnaître que ceux qui étaient sur le front, que ce soit les gardiens de la Révolution ou les Basidji, qui est une milice beaucoup plus populaire et plus informe, c'est des gens qui aujourd'hui, après la guerre, ils ont demandé qu'on leur donne des avantages pour leurs études, pour se réinstaller, pour avoir des prothèses, pour avoir des chaises roulantes, etc., pour ceux qui étaient blessés, et aussi des avantages sociaux. L'armée des gardiens de la Révolution aujourd'hui est le véritable encadrement militaires et policiers du régime de la République islamique.
Mais justement, aujourd'hui, cette armée est-elle capable à même de mener des opérations à grande échelle quand on voit qu'en ce moment, il y a des rumeurs de possibles conflits directs entre l'Iran et Israël? Après l'attaque contre l'ambassade iranienne à Damas, les Iraniens ont promis une réponse. Alors, elle pourrait être proportionnée, s'attaquer peut-être à des actifs israéliens, mais s'il fallait qu'on décide d'un conflit plus généralisé, est-ce que l'Iran a les reins assez solides, selon vous?
Alors d'abord, je constate qu'il y a des militaires iraniens en Syrie, et Bachar al-Assad peut remercier les Iraniens d'avoir défendu son régime qui était vraiment chancelant à partir de 2011. Ça veut dire que c'est déjà une position de force des Iraniens, même s'ils agissent plutôt comme un empire que comme une force d'intervention ponctuelle. Mmh. Ils exercent sur la Syrie une tutelle qui est constante et permanente et structurelle aujourd'hui. Déjà, c'est un point qui marque la puissance de l'Iran. Les empires souvent utilisent des recrues locales,
des proxys
pour mener les guerres qui leur sont utiles. Et dans les forces qui combattent pour l'Iran en Syrie, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'Afghans qui achètent leur droit de séjourner en Iran quand ils veulent échapper aux talibans de leur pays. Ils achètent leur droit simplement en acceptant d'aller combattre dans les milices pour l'Iran en Syrie jusqu'aux rives de la Méditerranée. Et pour le Yémen, c'est un peu différent, mais on voit très bien à quel point les Iraniens sont capables d'utiliser des populations de langue arabe, d'islam sunnite, qui ne sont pas a priori des alliés immédiats comme les chiites d'Irak, par exemple, qui sont plus portés à se solidariser avec l'Iran. Les Iraniens sont capables d'utiliser ces populations pour leur stratégie. Alors, seront-ils capables de mener une guerre ouverte contre Israël qui est suréquipée, qui a l'arme nucléaire?
Et une aviation extrêmement redoutable.
Une aviation redoutable dont ils ont fait la preuve, bon, c'était il y a déjà quand même bientôt 40, enfin plus de 40 ans, quand ils ont détruit le réacteur aux Irak près de Bagdad. Aucune défense aérienne irakienne n'aurait été capable d'arrêter cette incursion des forces israéliennes. Alors, avec une grande différence, c'est que d'abord l'Iran est plus loin que l'Irak. Bon, il faut quand même, ils peuvent être ravitaillés par les Américains au Golfe Persique, mais quand même, pour intervenir aussi loin, il faut être sûr de soi. Et les installations stratégiques, que ce soit nucléaires ou non nucléaires en Iran, sont dispersées sur un très vaste territoire où il est moins facile de réduire à néant l'opposition des forces locales.
Que représente le Hamas pour l'Iran? Parce que, a priori, il n'y aurait pas tant de liens entre une organisation sunnite, le Hamas, et l'Iran.
Idéologiquement, il y a un fossé immense entre les deux. Il est clair qu'entre Iran et Israël, il y a eu l'instrumentalisation d'un conflit, le conflit palestinien, et du soi-disant danger de l'Iran pour Israël, une instrumentalisation des deux côtés. C'est-à-dire que les Iraniens ont voulu montrer au reste du monde musulman, majorité sunnite, et notamment aux Arabes de la région, ils ont voulu montrer que les meilleurs défenseurs de la cause palestinienne, ce n'était pas la Syrie, ce n'était pas l'Égypte, ce n'était pas l'Arabie Saoudite, c'était eux. Et déjà, ça, c'est quelque chose qui est fondamental.
Et c'est pas totalement faux non plus.
C'est pas faux non plus. Inversement, par exemple, quand il y a eu des conflits au Caucase où les Russes avaient déjà une politique d'intervention et d'envahissement, je pense à la Tchétchénie, il y a quand même eu deux guerres en Tchétchénie, la capitale Grozny a été réduite en cendres, un peu comme les villes de la bande de Gaza aujourd'hui, réduite à néant. Et nous n'avons rien dit. Et l'Iran n'a rien dit. Vous voyez, c'est-à-dire la sélectivité de...
Des sensibilités.
Des sensibilités, c'est très net. L'Iran, d'abord, pense à son intérêt stratégique. Et ils ne vont pas affronter les Russes parce qu'ils ont besoin des Russes. Donc, ils ont fermé les yeux sur Grozny. Voilà. Comme pendant la guerre Iran-Irak, c'était, je crois, aussi en 82, c'était en février 82, si je ne me trompe, quand il y avait eu une révolte à Hama, en Syrie, des frères musulmans contre le régime de Hafez al-Assad, le père. Et il y avait un journaliste de Libération, heureusement, dans la région, qui a fait un reportage magnifique et terrible, parce qu'il y a eu 20 000 morts en un week-end, l'armée est intervenue et a écrasé des quartiers entiers de Hama. Les Iraniens n'ont rien dit. Absolument rien. Et nous, nous n'avons rien dit non plus. On était contents qu'on se débarrasse de ces mauvais islamistes qui étaient prêts à renverser le pouvoir de Damas. Il valait mieux un mauvais pouvoir des Assad plutôt que de voir les frères musulmans s'emparer de Damas. Vous voyez, on est toujours très sélectif dans les interventions. De même, à la fin de la guerre Iran-Irak, excusez-moi, je reviens un peu en arrière dans l'histoire, mais c'est assez instructif concernant notre approche des conflits de cette région. Il y a eu l'histoire de Halabja. Saddam Hussein a envoyé ses avions pour bombarder avec des gaz toxiques les populations frontalières du Kurdistan. Et nous, enfin, que ce soit Bernard Kouchner, les médecins du monde, nous n'avons rien dit. Ça n'existait pas. C'est les Iraniens qui ont dit, regardez, l'allié des Occidentaux, qu'est-ce qu'il fait avec sa propre population kurde? Donc, voyez, on est toujours...
Dans l'indignation à géométrie variable.
Géométrie variable. Je dirais même... Encore pour revenir sur la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans, où nous avons aidé militairement l'Irak, nos médias ont appelé cette guerre la guerre du Golfe à l'époque. Vous n'en souvenez pas, vous n'étiez peut-être pas né, mais moi j'étais en Iran.
J'étais terriblement né à cette époque.
Moi j'étais en Iran en tout cas à cette époque, et je peux vous dire que pour nous il n'y avait pas de guerre du Golfe. Puisque c'est une guerre qui se passait sur une zone terrestre, la zone frontalière, et c'était une guerre de position, un peu comme beaucoup de batailles dans l'est de la France pendant la Première Guerre mondiale.
Comme en Ukraine aujourd'hui.
Comme en Ukraine aujourd'hui, un petit peu. Moins intensif peut-être, mais vraiment c'était une guerre qui ne bougeait pas beaucoup, et en tout cas pas dans le Golfe Persique. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'était le pétrole. Oublions ça. Nous, occidentaux. En 88, la guerre, il y a eu un cessez-le-feu et il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. 2 ans plus tard, Saddam fait à peu près le même type d'attaque contre le Koweït, avec les mêmes prétentions territoriales, soi-disant basées sur des cartes anciennes où le Koweït faisait partie de l'Irak ottoman, etc. Tout le monde a réagi pour défendre ces pauvres Koweïtiens. Et on a chassé Saddam Hussein de là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était une guerre du Golfe encore. C'était la guerre du Golfe. On n'a pas dit la deuxième guerre du Golfe, on a dit la guerre du Golfe. Passons là-dessus. 13 ans plus tard, Bush attaque l'Irak après l'Afghanistan. Il attaque l'Irak en 2003. 2003. Et enfin, il vient à bout de Saddam Hussein. Cette fois, les Israéliens ne l'ont pas arrêté. Et on a dit, c'est la guerre du Golfe. Ça se passait pas dans le Golfe. Ça se passait en Irak. Voilà. Donc, trois guerres, on leur donne le même nom. Ça permet d'oublier la première où nous avons eu un rôle épouvantable. Alors, aujourd'hui...
Épouvantable parce qu'on était derrière Saddam Hussein.
On était derrière Saddam Hussein et on souhaitait la chute de la République islamique, l'écrasement.
Alors, permettez-moi justement de faire une parenthèse là-dessus. Cette République islamique, d'abord, c'est peut-être la première, si on exclut
le Pakistan
pendant quoi, deux ans, un an et demi, pas très longtemps.
Le Pakistan a toujours le nom de République islamique.
Oui, mais le réel projet de révolution islamique et de République islamique, ça reste assez courtement dans l'histoire inscrit, non?
Oui, ça n'existe pas. Disons, islamique, c'est un prétexte, parce qu'il y avait la partition avec l'Inde, qui est une catastrophe, etc. Bon.
Donc, la révolution iranienne marque les esprits, parce qu'elle est unique et différente.
Elle est unique et différente. Elle a un nouveau projet de société, auquel, en principe, on invite aussi les sunnites. En réalité, c'est devenu très sectaire très vite. Et les pays de la région, pays musulmans de la région, ont été beaucoup moins attirés par cette république repoussée. C'est-à-dire que dans la guerre Iran-Irak, pendant les 8 ans de la guerre, il n'y a que la Syrie qui s'est solidarisée avec l'Iran. Et en raison non pas d'une sympathie pour l'Iran, mais surtout d'une hostilité à Saddam Hussein. Mmh. Donc,
effectivement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Voilà. Et cette République islamique, en fait, a déstabilisé, pas seulement à cause du départ des Américains, mais aussi parce qu'il y a tout d'un coup, il y a eu un creux, il y a eu un vide. Enfin, les Soviétiques étaient à Kaboul. Il y a eu l'attaque de la grande mosquée de la Mecque, qui a été un traumatisme pour le monde musulman. Hein, il y a eu beaucoup de morts. Et puis, il y a eu toutes les guerres qu'il y a eu après. Il y a eu pratiquement toute la région était à feu et à sang, au Caucase. Et puis, à partir de... Alors, il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan. Toute la région était à feu et à sang.
Mais en ouvrant cette émission, je vous faisais la suggestion que la révolution de 1979 a peut-être plus radicalement changé notre monde que la chute de l'Empire soviétique ne l'a fait, parce qu'on vit aujourd'hui avec les conséquences de ce monde modulé par un Iran très puissant. En quoi cette révolution a vraiment et profondément changé la donne?
D'abord, il y a eu une surenchère islamiste, les attentats, le terrorisme islamiste. On a voulu faire mieux que les Iraniens. Et donc, il y a eu la violence, l'hubris dont vous parlez quelquefois dans vos interviews, s'est déclenché. Là, maintenant, le monde militant des pays, de tous les pays musulmans, mais particulièrement ceux qui ont le plus souffert, en Afghanistan notamment, peut-être au Pakistan, au Yémen, ils ont voulu faire au moins aussi bien que les Iraniens. Bon, ils n'ont pas réussi. L'effort de...
C'est une question d'émulation, selon vous?
Il y a aussi l'émulation, certainement. Certainement. On n'a pas voulu que les Iraniens chiites sortent comme les seuls vainqueurs dans le monde musulman de cette revalorisation de l'islam et d'avoir claqué la porte aux Américains. Donc il y a eu, et je pense qu'il y a un nouveau sursaut anticolonialiste qu'on voit en Afrique aujourd'hui, dans les pays qui nous ont claqué la porte récemment, peut-être bientôt au Sénégal, encore que là ça a l'air très mesuré pour l'instant, mais il y a tout d'un coup... On voit des gens qui s'excitent, sauf que, alors, est-ce que Trump a réussi, avec les accords d'Abraham, à faire une nouvelle stratégie américaine? À mon avis, c'est un échec patent, parce que la guerre à Gaza montre que les populations de tout le monde musulman, mais pas seulement du monde musulman, se révolte contre ce silence des Occidentaux concernant les massacres commis par les Israéliens.
Mais c'était d'ailleurs, je pense, un des objectifs du Hamas que de secouer l'apathie
Tout à fait.
Du il monde
voulait,
arabe.
Il voulait pas que les Saoudiens, notamment, aillent jusqu'au bout de, voilà, jusqu'au bout de l'accord qui était en vue. Et cet accord, de toute façon, avec un point qui ne pouvait pas être réglé, c'est Jérusalem. C'est évident, les Saoudiens ne peuvent pas accepter d'être chassés de Jérusalem, de ne plus être les défenseurs des lieux saints. C'est quand même les deuxièmes lieux saints de l'islam. Mmh. C'est impossible. Et Jérusalem est une ville musulmane. Alors, voilà, il y a des choses qui sont devenues impossibles. Nous nous sommes habitués à l'idée que les Israéliens étaient la seule puissance démocratique de la région. Là, on voit à quel point cette démocratie est très sélective. Et nous avons fermé les yeux sur les colonies en Cisjordanie et sur le traitement odieux que les Israéliens ont imposé à Gaza pendant plus de 20 ans. Enfin, c'est, voilà, on ferme les yeux sur tout ça. Et aujourd'hui, les Iraniens, je dirais, sont du bon côté. C'est-à-dire, c'est le pôle de résistance le plus crédible pour faire face au grignotement incessant sur la Palestine.
Mais c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se définissent, l'axe de la résistance, disent-ils. Oui. Donc les Houthis, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, mais c'est aussi, de notre point de vue, si tant est qu'il y ait un point de vue consolidé en Occident, la matrice du terrorisme, ou perçue comme telle. Je vous entends soupirer.
Oui, mais parce que pour moi, ça veut rien dire. Voilà, c'est tout simplement, ça veut rien dire. Vous allez me dire, les Iraniens sont des fanatiques, c'est des terroristes, c'est des gens.
Je ne vous ai rien dit.
Oui. Bon, vous n'avez pas dit ça, mais je sais que c'est souvent dans l'inconscient que moi, quand je dis que
mais
je.
Mais c'est vrai ou faux que l'Iran aussi alimente cette matrice terroriste, selon
C'est-à-dire
vous.
Que l'Iran a utilisé le terrorisme dans les premières années de la République islamique, sous forme d'attentats très violents, de prises d'otages, hein, au Liban ou ailleurs. Et ils cherchent même à intervenir encore ces dernières années en Europe pour neutraliser leurs ennemis. Ils ont supprimé des ennemis, ils ont envoyé des agents pour supprimer physiquement. Il y a eu Chapour Bartiol, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Mm-hmm. Et c'était les méthodes violentes pour s'affirmer comme étant des gens qui ne reculent devant rien. Je pense que l'Iran aujourd'hui est craint par les Israéliens parce que peut-être que l'Iran a un peu la même froideur et le même cynisme que les Israéliens quand ils ont décidé de faire une opération. Peut-être qu'ils sont capables d'aller très loin.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, voilà. Je dirais même que et là, je reviens un peu à mon livre où j'essaye de comprendre pourquoi les Américains ont perdu cette bataille en 79.
Je rappelle donc le grand Satan, le chat et l'imam, parce que rien ne laissait présager, quelques mois, sinon quelques années avant, que le chat, apparemment si puissant, puisse partir comme il est parti, mais presque du jour au lendemain.
En tout cas, très rapidement. Oui, très rapidement. Si on réfléchissait un peu, les Américains eux-mêmes, depuis assez longtemps, avant la Révolution, avaient compris que le chat était isolé dans son propre pays. Il avait une certaine popularité, mais surjouée et surfaite, parce que on ne disait jamais, la police politique, la SAVAK, ne faisait jamais de rapport où elle pouvait oser dire au chat qu'il n'était plus populaire. Donc on en rajoutait sur les manifestations d'enthousiasme quand le chat allait quelque part.
Mais en fait, de ce point de vue-là, il y a une véritable déconvenue qui est un moment de vérité pour le chat, que vous décrivez très bien. C'est quand il se rend à Washington, après l'élection du président Carter, dont il doute de la fidélité, parce qu'il aurait bien préféré que ce soit M. Ford qui soit élu, et qu'il découvre, à sa très grande surprise, des manifestants devant la Maison-Blanche, nombreux, pour protester.
Manifestation massive, des milliers d'étudiants étaient venus de tous les États-Unis et du Canada, par tous les moyens, en autobus, en train, n'importe quoi. Et ils ont manifesté. Et il y avait quelques milliers de manifestants pro-chat qui avaient été recrutés par l'ambassade à Washington. Mais c'était les familles des officiers iraniens qui étaient en entraînement dans des sites militaires aux États-Unis. Et en fait, il fallait séparer ces deux groupes dont les étudiants étaient beaucoup plus nombreux et prêts à en découdre parce qu'ils étaient assistés par tous les Américains qui avaient l'habitude de manifester contre la guerre du Vietnam qui s'était déroulée, qui s'était terminée en 75, donc très peu de temps avant. Et les gaz lacrymogènes, c'est un épisode pour moi très révélateur.
J'ai souvenir des images, on le voit pleurer, non ?
On le voit pleurer. Alors Carter, dans un texte, prétend que lui et Rosaline n'ont pas pleuré parce qu'ils s'étaient un peu mis à l'écart. C'est faux, quand on regarde les photos, Carter aussi a pris son mouchoir. Mais ce qui était nouveau, c'est qu'en Iran, on a osé montrer ces images du chat sur le podium qui pleure littéralement. Et ça, les Iraniens qui ne voyaient que des photos du chat triomphant et dans sa pleine virilité, etc., tout d'un coup, ils ont dit « mais le chat est comme tout le monde, c'est un homme faible ». Voilà, et quand il y a des gaz, il pleure comme tout le monde. Et c'est très intéressant que...
C'est un moment pivot.
C'est un moment pivot que Carter a voulu rattraper bêtement. Et parce qu'il y a eu beaucoup de sottises dans l'attitude de Carter. Carter devait aller en Inde peu de temps après, à la fin du mois de décembre, et il a dit, mais finalement, l'Iran est entre la Pologne, où il était avant, et l'Inde, donc je vais aller demander au chat de passer la nuit de la Saint-Sylvestre à Téhéran. Et le chat ne demandait que ça. Ça a duré moins de 24 heures. Hein. Mais Carter en a profité pour faire un discours absurde, où il disait que l'Iran était une oasis de stabilité dans un monde complètement fou, notamment au Moyen-Orient.
C'était donc ignorer ce qui, en Iran, était en train de se passer, ce qui bouillonnait.
Ce qui bouillonnait. Carter ne voulait pas le voir parce qu'il n'avait pas intérêt à le voir. Et le soutien immodéré de Carter au chat, avec des coupes de champagne où il n'y avait certainement pas une goutte de champagne, mais peu importe, ce soutien... Alors, on était en plein pendant le mois religieux de Muharram, qui est un mois particulièrement de dolorisme. C'est un peu comme la Semaine Sainte chez les catholiques du monde latin. Tout le monde pleure pour Jésus dans le monde chrétien, et là-bas, c'était pour l'imam Hussein. Et pendant ce temps, le chat fête le nouvel an des Américains, qui n'est pas le nouvel an iranien, avec une coupe de champagne, alors que lui ne buvait déjà plus de champagne parce qu'à cause de son cancer. Voilà. Mais c'est absurde. Mais une semaine après, le chef...
Mais les images font des fois l'histoire. Et c'est une
cette image est désastreuse, désastreuse. Et une semaine après, le chat, prenant au pied de la lettre l'éloge que venait de lui faire Carter, fait publier dans un grand journal iranien, et Telahat, cet article incendiaire, injurieux et plein de choses stupides sur Khomeini.
Bon, et ça met le feu aux poudres.
Le lendemain, voilà, il y a des dizaines, peut-être des centaines de morts à Qom, des gens qui étaient ulcérés, qu'on ait pu traiter dans la boue, l'ayatollah Khomeini. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes dans une époque de déclin spectaculaire de la puissance américaine. La guerre du Vietnam a été catastrophique. Et les Américains en Iran ont perdu la face complètement. Non pas militairement, mais ils se sont crispés sur cette histoire de prise d'otages. Bon, d'abord, ils avaient perdu une position stratégique extrêmement importante contre l'Union soviétique. Mais là, en plus, ils sont incapables de gérer la prise d'otages. Et ils en font une affaire de la une des journaux américains pendant 444 jours.
Et plus encore, la débâcle de cette opération organisée par les forces spéciales américaines ne fait que renforcer
cette image.
D'un géant au pied d'argile.
Exactement, qui sombrait lamentablement.
J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Alors, je suis tenté de faire un parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Si les Américains étaient ignorants de ce qui bouillonnait, et si même le chat était ignorant de ce que, dans son propre pays, il était contesté et beaucoup plus fragile qu'il ne l'imaginait, est-ce que la République islamique d'aujourd'hui, comme on nous le dit à l'occasion, est menacée d'implosion ou est-elle beaucoup plus organiquement appuyée que n'était le régime du chat?
C'est difficile de répondre à cette question.
Parce que vous êtes conscient qu'on nous dit, on nous dit depuis 10 ans.
Depuis 2009, on nous promet que c'est la fin. Voilà. Bon. Et les médias occidentaux s'engouffrent immédiatement chaque fois qu'il y a des manifestations qui montrent le mécontentement de la population iranienne et le peu de popularité que les dirigeants de la République islamique ont dans leur propre population. Mais d'abord, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les régimes autoritaires, et on pourrait dire dictatoriaux, ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons les régimes totalitaires, refusent de voir l'information, quelquefois. Le chat ne voulait entendre que les éloges, que les compliments, et il ne pouvait pas s'imaginer une seconde qu'il y a des gens qui ne voulaient plus de lui. Bon, il y a un ambassadeur iranien qui avait fait une très belle carrière, notamment dans les pays arabes, qui était en retraite, et je me souviens, après la révolution, je l'avais rencontré, il me racontait que en 77, au moment où Carter arrivait au pouvoir à Washington, lui était allé au sud de Téhéran, près du mausolée de Abdelazim, où était enterré son propre père, et il était allé très tôt le matin, vers 5 heures du matin, pour éviter les embouteillages, parce que Téhéran était une ville épouvantable du point de vue des embouteillages, et donc il a prié sur la tombe de son père, et puis il a entendu des gens autour qui venaient en pèlerinage, mais qui venaient aussi peut-être sur la tombe de leurs proches, et qui murmuraient des choses. Alors il s'est approché et il a entendu Marc Barcha, Marc Barcha, Marc Barcha. Mort au chat, mort au chat, mort au chat. C'est-à-dire que l'opposition sourde qui montait des tripes, que les gens ne disaient pas dans la rue parce qu'ils se seraient fait immédiatement arrêter, mais cette opposition, elle sortait
viscéralement,
et il y a des gens qui voulaient vraiment en découdre avec ce régime.
Alors je vous pose la question aujourd'hui. Parce que c'est aussi une dictature. Est-ce que monsieur, alors je ne prononcerai pas correctement,
Khamenei,
est menacé ou serait menacé comme l'était le chat?
Non. Non, il n'est pas menacé de la même manière. Parce que d'abord, il a les gardiens de la révolution qui le protègent. Il y a des intérêts mutuels. Lui a intérêt à garder cette milice comme soutien structurel de son régime.
Mais on parle de 150 000, 200 000 miliciens,
oui,
pour
c'est
une population
c'est une armée,
de...
C'est une armée.
Mais 88 millions d'habitants.
Mais écoutez, c'est des gens qui ont une insertion locale très forte. Lisez le livre de mon collègue Dudoignon. Vous verrez, c'est prodigieux. Ils ont une insertion locale. C'est pas comme une armée où les gens interviennent à tout point du territoire, etc. Ils sont d'abord issus de leur terreau, de leur quartier, de leur région, de leur village. Et ils ont une insertion populaire, même si le régime qu'ils défendent a perdu sa popularité. Il y a cette milice qui est extrêmement forte, qui est très 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 bien armée parce que ils ont des intérêts économiques extrêmement puissants, le pétrole, le nucléaire, toutes les voies de communication, les autoroutes, les chemins de fer, les avions, les aéroports.
Et la drogue, c'est sérieux parce qu'on dit il y aurait une économie illicite contrôlée par ces gardiens de la révolution.
Ils font du trafic quand ils sont aux frontières, mais ça, si vous voulez, ça existe partout, même en France. Hein, c'est pas, vous avez les trafics de cigarettes, ça paraît ridicule, hein, mais bon, ça existe. Et la drogue, hélas, nos ports sont pleins de containers qui viennent notamment d'Amérique du Sud où il y a de la drogue. Non, c'est pas.
Le régime iranien n'est pas un narco-régime, quoi.
Non, je pense pas. Ils ont d'autres choses, d'autres sources de revenus. Le pétrole, parce qu'ils en extraient beaucoup moins qu'avant. Les Iraniens consomment une grande partie. partie de ce qu'ils extraient, et ils en vendent, mais pas avec des dollars. C'est du troc avec la Chine, notamment avec l'Inde. Donc
les sanctions américaines...
Ça les touche, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire. Et les Russes, quand ils ont été sous sanctions depuis l'attaque en Ukraine, ils ont demandé aux Iraniens « Comment vous faites pour exporter votre pétrole ?» Et les Iraniens ont expliqué « Mais vous avez un conteneur en plein océan, tout d'un coup, il porte un autre nom, il a un autre port d'attache, etc. Et c'est un autre bateau, donc on ne peut pas lui refuser l'accès au port. » Voilà. Donc, ils exportent du pétrole par l'Irak. L'Irak n'est pas sous embargo actuellement. Donc, si vous voulez, l'Iran n'est pas un pays affamé, appauvri. Alors, la population est appauvrie, il y a beaucoup d'inflation, il y a une économie qui est très déséquilibrée. Ceci dit, comme on peut plus acheter avec des dollars tout ce qu'on veut, comme on faisait par exemple du temps du Shah, où la monnaie iranienne était très forte, on pouvait l'échanger dans des banques en France, n'importe quelle banque, vous prenez des rials. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et du coup, l'industrie locale marche autant qu'elle peut. Et quand ils peuvent vendre des choses à l'étranger, ça marche. Même des fruits ou des choses qui sont pas industrielles.
Donc le régime repose sur la présence d'un appareil sécuritaire redoutable, disons-le. La peur en partie.
Oui.
L'élimination des opposants. L'an dernier, je pense, plus de 800 exécutions.
C'est terrible, c'est terrible.
Et toujours publiquement fait, pour qu'on mesure bien le danger. Donc, c'est la peur qui est garant là-bas du régime?
Ce qui est garant du régime, c'est les alliances étrangères. La Chine, la Russie. Quand ils font du troc, c'est une manière de continuer à exploiter leurs richesses et d'en tirer le meilleur parti, même si les gens préfèrent des pneus américains que des pneus chinois. Mais ils ont de puissants intérêts avec leurs voisins russes, avec l'Irak, avec le Pakistan et l'Inde, avec l'Arabie Saoudite, probablement, ça va reprendre. Donc l'Iran a des ressources. Il ne faut pas croire que l'embargo américain a supprimé tout ça. La population n'est pas heureuse. D'abord, eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir une stabilité de leur argent, arrêter l'inflation et que l'économie permette aux jeunes qui ont fait des études de trouver une bonne situation dans le pays. Beaucoup s'expatrient encore aujourd'hui.
Parce qu'ils sont super diplômés, les Iraniens.
Ils sont extrêmement très diplômés. Qualifiés. Et les Américains profitent beaucoup de l'exode des cerveaux. Je pourrais citer un Iranien que je connais bien, qui jusqu'à ces dernières années, bon maintenant il est largement à l'âge de la retraite, mais il venait animer des séminaires dans les plus grandes universités iraniennes, l'université Sharif notamment à Téhéran, en anglais, et c'était des séminaires de mathématiques. Il sélectionnait les meilleurs. Et il leur obtenait des bourses pour Harvard, pour UCLA, pour toutes ces grandes universités américaines, ou peut-être pour McGill.
Mais inversement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que ça a été beaucoup dit depuis 2 ans, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce que l'Iran soit à même de faire des campagnes de désinformation, sinon de manipulation de l'opinion à grande échelle aux États-Unis et ailleurs? On a soupçonné que depuis quelques années, les Iraniens le faisaient avec des relais, justement, parce que, vous venez de le dire à l'instant, il y a des Iraniens un peu partout, une diaspora puissante, forte à Los Angeles et ailleurs, qui sont autant de relais potentiels pour la République islamique.
Alors, quand ces étudiants ou ces chercheurs pensent à retourner dans leur pays, ils sont un peu prisonniers. Donc ils peuvent effectivement participer à des opérations de déstabilisation, de manipulation de l'opinion, etc. Mais la plupart, quand ils arrivent aux États-Unis, dans les laboratoires où ils ont tous les moyens dont ils pouvaient rêver, et ils peuvent rapidement monter les échelons et devenir des personnalités importantes, on a des prix en mathématiques ou dans les laboratoires de physique, de pharmacie ou d'autres, où les Iraniens sont sont des gens extrêmement brillants et ils arrivent au meilleur poste. Donc ceux-là, ils cherchent pas à retourner en Iran. Et c'est un peu perdu pour la République islamique, mais ça fait partie de cette politique que l'UNESCO a dénoncée depuis longtemps, où on achète les cerveaux. Ça ne coûte rien aux États-Unis d'avoir un chercheur qui a déjà fait le principal de sa formation et qui vient juste se spécialiser.
Un actif net pour le pays, sans l'ombre d'un doute. Quel rôle joue la Russie aujourd'hui dans cette république islamique, compte tenu de ce que la guerre a un peu changé la donne? Je parle de la guerre en Ukraine et que les Iraniens ont participé à l'effort, indirectement peut-être, mais en fournissant des armes, des drones.
Des drones, oui, oui. Alors, il faut rappeler que les Russes ont un peu moins que les Britanniques, mais quand même fortement depuis le 19e, l'image d'un pays qui cherche à envahir, à accaparer les ressources, et c'est une puissance menaçante, c'est-à-dire c'était une puissance impériale, et notamment jusqu'à la Première Guerre mondiale, et même pendant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs jusqu'en 1946.
Pour les Iraniens.
Pour les Iraniens, et donc les Iraniens, on ne peut pas dire que les Iraniens aiment les Russes. Ils se méfient des Russes. Ils savent que c'est un pays prédateur et ce n'est pas leur allié, leur ami naturel. D'abord, il y a très peu de musulmans proportionnellement en Russie et donc ce n'est pas une puissance musulmane. Et en même temps, les intérêts locaux ou régionaux de la Russie sont très divergents par rapport à ceux de l'Iran. Mais je vous ai cité tout à l'heure le cas de la Tchétchénie. Les Iraniens ont fermé les yeux sur les horreurs de Grozny parce qu'ils n'avaient pas intérêt à s'aliéner l'alliance ou l'aide de la Russie dans le domaine militaire, notamment pour des missiles.
Qui ont pris un peu le relais des Américains.
Plus ou moins, parce que la technologie est moins avancée, mais de fait, ils ont pris la place des Américains comme protecteurs, comme grande puissance protectrice.
Mais on en parlait avant de commencer cet entretien, cette guerre en Ukraine pour l'Iran, c'est la possible ouverture aussi de nouvelles voies navigables.
Ah ben c'est prodigieux. Quand on regarde la carte des voies par lesquelles l'Iran pourrait exporter ses richesses, notamment le pétrole et le gaz, il est évident que passer par la Russie, c'est une aubaine pour eux, et notamment arriver par le canal de la Volga, qui est à très gros gabarit, arriver jusqu'à la mer d'Azov et à la mer Noire. Si on leur coupe le golfe Persique, ils ont une voie de sortie qui est potentiellement très intéressante, sauf évidemment s'il y avait une catastrophe russe dans la guerre avec l'Ukraine.
Catastrophe au sens où la Russie perdrait la guerre en Ukraine.
Voilà, elle serait obligée de se retirer notamment de la mer d'Azov ou de Crimée. Ce serait pour les Iraniens, ce serait évidemment quelque chose de très douloureux.
Donc ils sont des alliés de facto compte tenu de ce qu'il y a des bénéfices sonnants et trébuchants pour eux.
Oui, alors déjà du temps du Shah, les Soviétiques avaient construit une immense aciérie au sud d'Ispahan, qui fonctionne toujours, qui utilise hélas beaucoup d'eau, et ça c'est une catastrophe écologique parmi d'autres que les Iraniens doivent affronter. Et puis, quand les Occidentaux se sont retirés de tous les projets nucléaires de l'Iran, que le Shah avait projetés, c'est les Russes qui ont repris, par exemple, la centrale de Bouchehr, qui fonctionne aujourd'hui, qui fabrique de l'électricité nucléaire. Donc les Russes, je ne sais pas si dans le domaine militaire, les Russes, en principe, non, parce que même les accords de Vienne en 2015, les Russes en étaient solidaires. Normalement, ils n'ont pas le droit d'aider les Iraniens à développer le nucléaire militaire. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait quand même une collaboration dans ce domaine.
Vous croyez que le président Obama avait raison de rouvrir les relations, lever une partie des sanctions et de travailler à encadrer le développement de l'énergie nucléaire civile?
Écoutez, je pense que l'intérêt américain aurait été de continuer dans cette ligne, effectivement. John Kerry avait repris les négociations avec les Iraniens avec succès, puisque le JCPOA qui a été signé donc en juillet, le 14 juillet 2015, c'était à l'avantage de tout le monde. Et les grosses sociétés européennes ou américaines...
Ça salivait.
ils se pressaient. Ils étaient tous retournés à Téhéran. Ils avaient leur carnet de commandes remplies très vite. Et puis, les Américains ont tout arrêté. Même avant que Obama retire la signature américaine. Et les Européens, en fait, n'ont rien fait. Rien. Pour compenser ce retrait américain. Parce que nous n'étions pas obligés de nous aligner sur la position américaine.
Mais d'un point de vue, je dirais presque cynique, mais qui serait aligné strictement sur les intérêts américains. La décision de M. Trump de mettre un terme justement à ce protocole avec l'Iran et de les affamer davantage, sinon de les étrangler davantage, les Iraniens, m'a donné à distance l'impression qu'ils n'avaient plus les moyens de bien supporter le Hezbollah, peut-être le Hamas, et donc que du point de vue des intérêts stratégiques des Américains, ça fonctionnait. Cette guerre d'attrition livrée contre l'Iran.
Oui, on peut dire ça. Sauf que il n'y a pas que les Américains qui sont de grandes puissances économiques. Si vous regardez la Chine ou l'Inde, il peut y avoir d'autres intérêts ailleurs dans le monde. On pourrait faire l'histoire de tous les embargos. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais on a vu que l'Afrique du Sud a continué à vivre même sous embargo pendant très longtemps. On peut
Cuba. Imposer...
Oui, Cuba, bien sûr, mais il y a mille exemples. C'est pas ça qui va arrêter les Iraniens. Je pense que ce régime a beaucoup de mal avec sa propre population, qui n'est plus convaincue, qui voit avec méfiance tout l'argent qui est déversé pour soutenir la cause palestinienne ou la République syrienne.
Méfiance,
parce qu'ils disent, mais pourquoi on dépense de l'argent pour les Palestiniens?
Comme les Républicains le font au Congrès en disant pourquoi on dépense tout ce fric pour les Ukrainiens?
Un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas du tout l'aspect positif de l'empire potentiel de la République islamique dans cette région. Ils voient simplement des dépenses qui sont faites pour des gens pour lesquels ils n'ont pas une sympathie immense. N'oublions pas que les Iraniens... Alors, il y a eu de l'antisémitisme en Iran depuis des siècles, c'est pas nouveau, mais peut-être beaucoup moins que dans les pays arabes. Et en tout cas, après la création de l'État d'Israël, l'Iran a été un des pays qui a le plus collaboré avec Israël. Et qui souhaitait d'ailleurs le renforcement de la puissance économique d'Israël, ne serait-ce que, et peut-être militaire aussi, je ne sais pas, pour affaiblir les pays arabes de la région et pour avoir sa place dans une stratégie occidentale.
Oui, parce
qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà,
mais on oublie souvent, évidemment, que les Perses ne sont pas arabes.
Ils ne sont pas arabes du tout. Non, pas du tout. Ils sont plutôt anti-arabes.
Et qu'il y a même, je dirais, une méfiance très grande.
Très grande méfiance.
Alors, je repose la question que je vous posais tout à l'heure sur les assises de cette République islamique. Il y a 2 ans, quand on a vu les femmes se révolter, les femmes à qui on impose, auxquelles on impose le voile, encore une fois, c'était apparemment une ouverture où on disait ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire vaciller la République et que c'est le début d'un vaste mouvement. Or, ce n'est pas arrivé. Parce que la peur l'emporte, parce que la puissance répressive l'emporte, ou parce qu'on adhère au projet?
On n'adhère pas, mais il y a un peu toutes les raisons imaginables. Je pense d'abord que les médias occidentaux se sont rués sur cette question des femmes. Ça nous paraît un droit inaliénable des femmes de sortir en cheveux dans la rue. Je suis désolé, mais même... Dans mon village de Bourgogne, il y a 50 ans, les femmes mettaient un fichu pour sortir dans la rue. Et elles ne seraient jamais allées à l'église en cheveux. Bon, les mœurs changent. Et je dirais, en Iran comme dans d'autres pays, une femme qui a fait des études, qui est devenue enseignante à tous les niveaux, école, lycée, université, qui est devenue ingénieure, qui est devenue médecin, chercheuse, cette femme ne peut pas accepter qu'un milicien animé de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, peu importe, lui fasse des remarques dans la rue. Madame, enlevez votre rouge à lèvres ou mettez votre foulard pour couvrir vos cheveux. C'est insupportable.
Ah, voilà. Mais il y a une police des mœurs qui agit. Et qui,
oui, qui agit
et qui réprime
violemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si les femmes se sont révoltées contre ça, c'est aussi qu'elles sont arrivées à un niveau de formation, d'études équivalent à celui des hommes, voire supérieur. Et donc, je sais que je vais faire bondir mes amis iraniens, s'il y en a qui regardent cette interview plus tard, mais peu importe, c'est au crédit de la République islamique d'avoir ouvert les écoles largement, en partie parce que les filles étaient séparées des garçons et parce que les filles étaient couvertes. Les familles ne pouvaient plus les retenir pour des règles de morale traditionnelle absurde qui malheureusement ont cours dans beaucoup de
pays.
Mais
c'est un vrai paradoxe, parce que si d'un côté on forme et on donne aux femmes du pays les moyens de l'éducation, et que de l'autre côté, on les enferme dans des cul-de-sac où elles ne peuvent s'élever dans la société et où on leur demande de se
tenir voile. N'exagérons rien. L'Arabie Saoudite, on a...
Je suis en train d'exagérer en disant ça?
Oui, parce que c'est cul-de-sac, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Si on les enferme dans des sacs, c'est ça que vous voulez
non,
dire?
Non, du tout. Non, je parle de cul-de-sac politique, c'est-à-dire que est-ce qu'il est possible d'aspirer aux plus hauts échelons de la vie politique?
Pas comme président de la République, apparemment, mais comme ministre, oui. Comme député, oui, bien sûr. Sauf qu'ils sont très en retard pour l'égalité des chances, etc. Nous, occidentaux, où les femmes ont depuis 70 ans à peu près le droit de vote...
Pour moi, ça ressemble un peu à un cul-de-sac. Si d'un côté, on vous dit vous pouvez être diplômé médecin, mais qu'en même temps, vous n'avez pas l'égalité des chances...
Il y a en tout cas une ouverture 10 fois plus grande que dans la plupart des autres pays musulmans. Et si vous comparez, moi je voulais comparer avec l'Arabie Saoudite, peut-être grâce à MBS maintenant, les femmes peuvent sortir avec un simple fichu sur la tête, mais il n'y a pas si longtemps, on voyait que des sacs.
En disant c'était grâce pas à MBS, vous êtes aussi conscient qu'il y en a certains qui vous
écoutent.
C'est
du cynisme. Mais je dis ça par cynisme. C'est vrai. Mais il a ouvert la société saoudienne. Les femmes peuvent conduire leur voiture. Mais vous vous rendez compte, en Iran, les femmes ont toujours conduit leur voiture. Hein, c'est pas... Et personne ne s'est étonné de ça. Et moi, ça me paraît beaucoup plus important.
Donc, on est très mal informé.
On est déformé par nos médias. Cette histoire des femmes, elle est très respectable, mais on a tellement exagéré les campagnes anti-République islamique au sujet des femmes que... Le régime en tirait des arguments pour dire, regardez, on vous dit que c'est télécommandé depuis l'étranger, ben voilà la preuve. Elle est là, la preuve. Regardez toutes ces campagnes, c'est disproportionné.
Alors, ça dessert les intérêts démocratie en Iran?
De faire campagne comme ça pour les soutenir?
Alors, vous me direz qu'il n'y a aucun enjeu, puisque c'est une démocratie.
Je ne peux pas répondre à ça. Si vous me parliez des femmes en Afghanistan, qui sont véritablement brimées et qui n'ont plus le droit de faire des études, qui n'ont plus le droit de sortir dans la rue, etc., là, je crois qu'il est légitime et même indispensable de dénoncer ça. Mais vous ne pouvez pas dire la même chose des femmes en Iran. Franchement, vous ne pouvez pas. Alors, il y a des droits...
Mais je suis avec vous. Oui. Et ce que je me pose comme question, c'est jusqu'à quel point nous avons été les idiots utiles d'une espèce de campagne pour nous indigner et créer cette espèce d'opposition en tout à l'Iran.
Je crois que nous sommes effectivement, on est victime de déformation et
désinformation. Déformation ou désinformation?
Les deux. Mais je crois que nous sommes persuadés qu'en faisant campagne à fond de caisse pour défendre les femmes iraniennes qui sortent dans la rue, qu'on leur rend service. Non, les femmes sont capables en Iran de protester d'elles-mêmes. C'est pas la peine d'amplifier leur mouvement. Et plus vous les amplifiez depuis les pays occidentaux, plus vous donnez des arguments aux autorités qui briment les femmes en leur imposant le voile.
Il y a une aspiration en Iran à, appelons ça pour faire simple, l'occidentalisation.
Écoutez, là, il faudrait que vous m'invitiez à une deuxième émission, parce que c'est un sujet très important et très ancien. Depuis les années 1960, vous avez des intellectuels iraniens qui ont dénoncé ce qu'ils appelaient l'ouestification, c'est-à-dire la maladie de l'Occident. Et en persan, c'est Ralph Zadeghi. Et il y a eu des colloques internationaux de très haut niveau qui ont été tenus à Téhéran juste avant la révolution, hein, jusqu'en 77, où des intellectuels français, allemands, américains venaient débattre de la question de savoir si la culture occidentale était assez universelle pour permettre aux Iraniens de s'épanouir et d'arriver à faire fructifier leurs propres valeurs. Eh ben, je vous donne pas la solution parce qu'il n'y a pas de solution à ça.
Mais c'est surtout compliqué. Qu'il y a à la clé une espèce, de condescendance occidentale parce que la société iranienne, perse, est une civilisation d'abord riche, ancienne et extraordinairement sophistiquée. Qui sommes-nous pour donner des leçons de civilisation à un peuple aussi ancien? Il y a un peu de ça, non?
Tout à fait. Je vois que vous regardiez votre montre. On arrive peut-être à la fin de cet entretien.
Non, je voulais simplement m'assurer de ce que nous étions à peu près dans les temps.
Mais je vais finir par une boutade, mais qui dit beaucoup de choses. Le premier ami iranien qui m'a attiré vers la culture de son pays, c'était un poète qui avait été mis en prison après le coup d'État contre Mossadegh. Il était communiste. Il était officier communiste. Il y avait beaucoup de communistes dans l'armée iranienne. Et après, il a pu retourner en Iran, etc. Et moi, je lui reprochais, on était en plein mois de juillet, il faisait très chaud à Téhéran, il faisait au moins 40 degrés, il mettait un costume et une cravate, et pour aller voir des personnalités, on organisait un événement culturel ensemble, etc. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que les Iraniens mettent un costume et une cravate? C'était du temps du chat, hein, il n'y a plus de cravate aujourd'hui. Bon, pourquoi est-ce que vous mettez ce costume? Il m'a dit, espèce d'imbécile. Nous avions déjà une cravate et vous étiez encore dans les cavernes. Il voulait me dire, notre civilisation est beaucoup plus ancienne que la vôtre et tu n'as pas de leçon à me donner sur la manière dont je m'habille. Et ça, c'est, pour moi, ça a été un déclenchement de toute une réflexion sur l'ancienneté de la culture persane. Et je le vois maintenant, j'essaye de me détacher de l'Iran contemporain pour revenir à mon premier amour, c'est la littérature persane mystique. Je vois des textes d'une sophistication, d'une finesse, d'une intelligence extraordinaire du haut Moyen-Âge. À l'époque, on commençait à avoir une littérature populaire, etc. Mais on était bien loin des Iraniens. La civilisation en Iran a beaucoup de choses à nous apporter encore aujourd'hui.
C'est peut-être pour ça que je vous parlais de cette condescendance occidentale que nous avons aujourd'hui quand on regarde ce qui s'y passe là-bas, même si nos intérêts apparemment ne sont pas convergents.
On a forcément des rivalités et des hostilités, notamment tout ce qui touche à l'islam devient tellement sensible aujourd'hui, et les Iraniens sont bien sûr de l'autre côté. Ils essayent d'utiliser ce vecteur de mobilisation et ils l'utilisent contre l'Occident, ce que je peux très bien comprendre, bien que je sois moi-même occidental et je ne suis ni iranien ni musulman.
Yann Richard, c'était une conversation passionnante. Ceux qui seraient intéressés par ce que vous avez à nous apprendre pourront aussi lire l'Iran de 1800 à nos jours. Alors là, évidemment, ça ne donne pas la pleine mesure de cette histoire ancienne, mais quand même, ça nous rappellera que c'est une histoire qui n'est pas nouvelle non plus. Merci d'avoir participé à Contact aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous à notre chaîne, quelle que soit la plateforme de prédilection. Ça fait pour nous une différence. Marianne Grenon était à la recherche de cet épisode. C'est Jeanne Croteau qui fait la réalisation. Stéphane Bureau, microphone. À tous, une excellente semaine. À très bientôt.